La fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans la fabrique politique. Dans cette émission, au fil de nos tentatives de décryptage du fonctionnement des grandes machines institutionnelles, une question revient régulièrement au micro: qui influence la décision des responsables politiques? Et par là, on a bien sûr à l'esprit celles et ceux qui ne sont pas officiellement dépositaires du pouvoir, mais qui, par des moyens divers et variés, s'efforcent de plier le choix politique selon leurs convictions, leurs intérêts ou ceux des cercles qu'ils représentent. Vous l'aurez compris, l'émission du jour s'intéresse aux enjeux du plaidoyer en politique, ou pour le dire plus directement, au lobbying. Ok, ce terme est généralement plutôt associé au côté sombre de l'humanité, aux vendeurs d'OGM, de cigarettes et bien sûr d'armes à feu, comme en témoigne ce reportage tourné aux États-Unis en 2010.
Une pizzeria de la banlieue de Washington en Virginie, le lieu de rendez-vous des membres de la Ligue locale d'autodéfense, autrement dit le lobby des armes. Un lobby qui ne s'est jamais aussi bien porté aux États-Unis.
Partout où je vais, mon pistolet est accepté. C'est un accessoire comme un autre, comme un téléphone qu'on porte à la ceinture. Les gens ne remarquent même plus.
Le port du revolver à la ceinture, un acte devenu banal, alors que la Cour suprême des États-Unis a récemment renforcé la loi qui autorise tout Américain à posséder une arme à feu. L'administration Obama a même donné son feu vert au port d'armes dans les parcs nationaux et dans les trains.
On regarde ce qu'il fait, on reste sur nos gardes, mais jusqu'ici on ne peut pas dire qu'il ait fait quoi que ce soit d'inquiétant.
Et la Virginie, état déjà très libéral en la matière, est en passe de devenir un vrai paradis. Bientôt, il ne sera même plus obligatoire de montrer ostensiblement qu'on a une arme dans les restaurants. On pourra la dissimuler sous sa veste. C'est le must, la cerise sur le gâteau.
C'est embêtant de toujours avoir à se demander si on doit ou pas dissimuler son arme en fonction de l'endroit où on va. Ça va nous simplifier la vie.
200 millions d'armes sont en circulation aux États-Unis, un pays de 300 millions d'habitants. Ici en Virginie, les armes séduisent tout le monde, les vieux barbus, mais aussi, et de plus en plus, les jeunes femmes.
Mais bien sûr, vous vous en doutez, c'est plus compliqué que ça. Le lobbying, le plaidoyer, c'est aussi les militantes et les militants des droits des femmes, de l'écologie, les défenseurs des minorités, les artisans de l'accessibilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ce sont des femmes et des hommes qui se battent, depuis la société civile, pour des lois et des politiques plus justes, plus équitables, plus humaines. Alors, comment s'y prennent-ils, tous ces influenceurs de la décision publique? Comment construisent-ils leurs argumentaires? Comment vont-ils au contact des représentants du pouvoir? Quelles sont leurs stratégies? Pour répondre à ces questions et remplir notre job de dévoilement des coulisses de l'univers politique, nous recevons aujourd'hui le directeur général d'une fédération que l'on soupçonnera difficilement de malveillance à l'égard de ses semblables, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui rassemble les grandes associations de la lutte contre l'exclusion et s'efforce de porter la parole des personnes en situation de pauvreté et de précarité. Bonjour Florent Guéguin.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. Alors, Florent, pour commencer, j'aimerais qu'on plonge les auditrices et les auditeurs au cœur de l'action. Vous représentez les associations de solidarité qui œuvrent partout en France auprès des populations précaires. Admettons que vous ayez défini avec elles un nouvel axe de plaidoyer, par exemple défendre une hausse du montant du RSA, du revenu de solidarité active, notre minima social, que vous ayez défendu donc, que vous souhaitiez défendre une hausse de ce RSA pour passer de 500 à 850 euros par mois. Comment vous vous y prenez? Vous allez voir qui, dans quel ordre, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Sur ce type de revendication, c'est une revendication très ambitieuse, hein, puisque effectivement, nous considérons les associations de contre-exclusion qu'on devrait avoir un système de protection sociale qui garantisse à toute personne finalement de ne pas vivre avec moins de 850 euros par mois. Mais ce type de demande a un coût budgétaire assez important, hein, c'est plusieurs milliards d'euros. Donc pour avancer sur ce type de revendication, il faut le faire de plusieurs manières. D'abord, il faut essayer que le sujet soit sur la table des décideurs techniques, c'est-à-dire des administrations centrales, en l'occurrence, par exemple, la Direction générale de la cohésion sociale, mais aussi la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté, bref,
Ça, c'est des hauts fonctionnaires, ça ? C'est des gens qui sont dans les ministères,
oui,
c'est ça ?
Oui, ça, ce sont des hauts fonctionnaires. Et la première étape, c'est d'arriver à mettre le sujet sur la table, ce qui n'est pas facile, parce qu'encore une fois, ce type de mesure a un coût important. Et donc, il faut tout un travail pour faire en sorte que qu'il soit mis à l'ordre du jour, je dirais, à un niveau administratif. Et puis, dans le même temps, il faut interpeller le politique, c'est-à-dire à la fois les ministres concernés, là, en l'occurrence, essentiellement Agnès Buzyn, qui est la ministre en charge des politiques de solidarité, interpeller aussi le Parlement. Alors, ça se fait soit à l'occasion, je dirais, des propositions de loi ou des projets de loi sur lesquels nous sommes régulièrement auditionnés. Il faut glisser à chaque fois ce type de propositions. Ça peut se faire aussi par le biais d'amendements parlementaires. Nous, on prépare beaucoup d'amendements, hein, je dirais, un peu tout fait pour que les élus puissent s'en emparer. Alors souvent, c'est plutôt des élus de l'opposition qui s'en emparent, hein, puisque c'est d'une certaine manière plus facile de porter ce type de proposition quand on n'est pas en situation de décision que lorsqu'on fait partie du groupe majoritaire. Mais parfois, on arrive à glisser des propositions qui sont portées par le groupe majoritaire. Et puis, il y a un troisième levier qui est évidemment très important, qui est l'interpellation de l'opinion publique, parce qu'en réalité, le politique, il ne décide que en fonction de ce qu'il ressent de l'opinion publique. Et donc, on ne peut pas faire avancer ce type de revendication si on ne rend pas visible auprès de l'opinion publique, c'est-à-dire dans les médias, la pauvreté, la réalité de la pauvreté et la réalité de l'absolue nécessité d'augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres. Donc, d'accord, il faut vraiment agir sur les trois leviers, administratif, politique, médiatique, pour pouvoir avancer.
D'accord. Du coup, on va reprendre dans l'ordre pour donner un petit peu à voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Alors, donc, vous dites par exemple, on va voir les gens dans les ministères. Ça se passe comment ? Ça veut dire que vous sollicitez des rencontres, vous écrivez des courriers, il y a des réunions régulières. Concrètement, ça se passe comment de prendre contact avec un ministère ?
Soit nous nous saisissons en fait d'une actualité du ministère, par exemple la préparation du dernier plan pauvreté a été l'occasion pour les associations de porter ce type de revendication, soit directement auprès des ministres concernés, soit auprès des hauts fonctionnaires qui sont amenés à rédiger la stratégie pauvreté qui a été présentée donc mi-septembre par le président de la République.
Mais ils vous reçoivent toujours, c'est-à-dire dès que vous les contactez, c'est bon, ça marche, et ils disent OK, on se voit à telle heure, à telle date, ou il faut se battre pour être reçu, pour exister ? Ça, je m'en parle.
Ouais, ça dépend des sujets, et ça dépend aussi de l'ambiance politique du moment, de est-ce que la question sociale et est-ce que les questions autour de la pauvreté, du pouvoir d'achat sont au centre de l'agenda politique ou est-ce que c'est, je dirais, un sous-thème de l'actualité immédiate. Je dirais que ça dépend du moment. En ce moment, le débat politique porte quand même beaucoup hein, sur les questions de pouvoir d'achat. Alors, plutôt sur les questions de pouvoir d'achat des salariés modestes, donc des smicards, des travailleurs pauvres, plus que sur le pouvoir d'achat des personnes qui sont par exemple allocataires du RSA ou chômeurs de longue durée. Mais nous, on utilise, je dirais, toutes les fenêtres de l'actualité pour solliciter ce type de rendez-vous. Il y a aussi des rendez-vous marronniers, hein, qui sont les rendez-vous autour de l'élaboration de la loi de finances.
Là, ah oui, ça, c'est des rendez-vous incontournables. On sait que de toute façon, on les verra à ce moment-là. Ouais.
Ce sont des rendez-vous incontournables. D'abord, la loi de finances, c'est le money time hein, des politiques publiques. C'est-à-dire qu'au-delà des discours, c'est bien le budget de l'État, des collectivités locales, qui traduit l'engagement réel des pouvoirs publics. Et il y a effectivement systématiquement le secteur associatif est invité soit par les ministres qui portent leur budget, soit par les groupes parlementaires, les rapporteurs budgétaires, donc ça c'est la majorité, les groupes parlementaires qui veulent intervenir dans le débat budgétaire, ça peut être la majorité comme l'opposition, et on utilise tous ces moments pour, je dirais, peser sur et introduire nos propositions.
Et alors, quand on essaie de joindre et de voir ministre, cabinet ministériel, administration, j'imagine qu'il y a une sorte de gradation, c'est-à-dire que on essaye de taper au plus haut, et puis ensuite, eux, chez eux, dans leur tambouille interne, ils finissent par décider qui va recevoir les associations à certains niveaux hiérarchiques. Il y a comme ça une espèce de jeu de gradation de la qualité de la personne qui va vous recevoir. Ça, c'est un truc que vous vivez tous les jours.
Oui, c'est sûr que nous, je dirais qu'en fonction des sujets, nous réfléchissons avant quel est le bon niveau, je dirais, d'interpellation. Parfois, ça peut être le niveau administratif. Ouais. Parfois, ça peut être le niveau politique. Je dirais que c'est en fonction des sujets et en fonction de l'actualité sociale. Mais s'agissant du niveau de l'interpellation du niveau politique, moi, je suis convaincu que le lobbying qui fonctionne, c'est quand à la fois on interpelle le niveau politique, je dirais avec une base technique suffisamment travaillée et suffisamment crédible pour pouvoir convaincre, et que dans le même temps, on interpelle de manière médiatique pour saisir l'opinion, parce qu'encore une fois, le politique, il va décider sur la base d'arguments techniques, hein, mais aussi en fonction de ce qu'il ressent, de la perception de l'opinion publique, du sujet, de la proposition qui lui est présentée. Donc, cet attelage, je dirais, entre l'interpellation grand public et le travail technique, il est indispensable. Sur les gros sujets, si on n'a pas cette double action, on arrive très, très difficilement à avancer.
Sur la partie législative, donc vous parliez tout à l'heure de la question des amendements. Donc concrètement, il y a des députés, il y a des sénateurs, effectivement, de la majorité, de l'opposition. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous allez carrément leur donner des amendements clés en main, des projets de loi écrits. Comment ça se passe? Ça veut dire que là, c'est pareil, vous sollicitez un rendez-vous, vous allez à l'Assemblée, vous rencontrez un député, vous dites, bah voilà, le texte, c'est ça?
Oui, alors en fait, sur les sujets que nous traitons, nous sommes régulièrement auditionnés, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le demander, hein, nous sommes régulièrement auditionnés par les rapporteurs donc des projets de loi ou des propositions de loi donc relatives, on va dire, aux politiques de lutte contre l'exclusion. Et donc c'est toujours l'occasion, ces rencontres, qui sont donc souvent à l'initiative des parlementaires, c'est toujours l'occasion de présenter nos propositions, et parfois de présenter des amendements qui sont effectivement déjà rédigés et qui nous permettent, je dirais, tout de suite de peser sur la discussion. Et nous, on essaye de rédiger les choses de telle manière à ce que, finalement, il y ait le moins de travail possible, il y ait le moins de travail nécessaire pour les parlementaires qui souhaiteraient reprendre nos propositions telles quelles.
Ils ont juste à les envoyer à leurs collègues, quoi.
Voilà, ils envoient à leurs collègues. Alors ensuite, il y a le processus parlementaire fait que ces amendements passent en commission. Donc pour nous, c'est souvent la commission des affaires sociales qui rassemble donc des députés de la majorité, de l'opposition. Il faut convaincre dans ces commissions, évidemment, d'adopter l'amendement ou la proposition proposée. Et puis ensuite, il faut convaincre l'exécutif. Alors, sachant que là aussi, hein, la capacité des associations à faire évoluer un texte dépend beaucoup, je dirais, de la marge de manœuvre qui est laissée au Parlement dans l'élaboration des lois. En ce moment, on est plutôt dans une période où le Parlement a peu de marge de manœuvre par rapport à un exécutif qui décide, je dirais, de 90% des textes. Et qui un exécutif qui accepte finalement assez peu les amendements parlementaires.
Donc c'est pas forcément plus efficace en ce moment. Quoi.
Des associations. Donc voilà, je dirais que ça dépend des relations entre l'exécutif et le Parlement. En ce moment, on a plutôt un Parlement qui est sous contrôle de l'exécutif, avec une majorité très large pour En Marche, qui fait que finalement, c'est vrai qu'on est plutôt dans une période où il y a assez peu
d'amendements de l'opposition qui passent, voire même il y aura assez peu d'amendements du groupe majoritaire qui passent.
D'accord. Ok, merci Florent. On va faire un premier break musical et on se retrouve juste après. C'est la version de Donny Hathaway d'une chanson de John Lennon qui s'appelle Jealous Guy. Vous êtes toujours sur Radio Campus, c'est la Fabrique Politique. Nous parlons aujourd'hui plaidoyer politique et lobbying avec Florent Guéguin, le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité. Florent, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la fabrique du plaidoyer. Pour que vos propositions et revendications soient crédibles, je suppose qu'il faut qu'elles soient empreintes d'une solide expertise. Alors comment une fédération comme la vôtre, et comme bien d'autres j'imagine, établit et étaye cette expertise? Comment vous bâtissez un argumentaire?
Nous, on essaie toujours de partir de finalement de la préoccupation des personnes en situation de précarité ou de pauvreté, et on essaie de partir, je dirais, des remontées de terrain, soit exprimées directement par les personnes que nous accompagnons via par exemple les centres d'hébergement ou les structures d'insertion par l'activité économique, soit par directement les associations de notre réseau, hein, puisque nous sommes un réseau d'un peu plus de 870 associations et organismes de lutte contre l'exclusion. Et on essaye encore une fois toujours que la proposition technique et politique, elle finalement, elle émerge des besoins exprimés par les personnes ou par les associations de terrain. Ensuite, il y a tout un travail d'analyse technique, juridique, législatif et réglementaire qui est fait pour voir comment on formule cette proposition et comment on l'intègre, j'allais dire, aux lois et règlements existants. On le fait en interne à la fédération, mais on le fait aussi souvent avec d'autres organisations qui peuvent ne pas être membres de la fédération, mais dont on pense que l'appui est essentiel et qu'il y a une nécessité, je dirais, de faire masse, de faire nombre pour peser sur la décision politique. Et puis ensuite, une fois que la proposition est rédigée, souvent de manière collective, elle est transmise donc en fonction du sujet, hein, soit aux administrations,
ce qu'on a vu tout à l'heure, ouais, aux administrations,
soit au niveau plus politique.
D'accord. Si on part sur la question effectivement de votre capacité d'expertise en interne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des ressources propres à la fédération, des équipes d'experts qui fabriquent le plaidoyer. C'est quel profil finalement qu'on va trouver chez vous ?
Absolument, nous avons à la fédération des salariés qui sont pour un grand nombre très spécialisés sur des domaines spécifiques, sur des chargés de mission.
Par exemple.
Et dont le travail, par exemple, vous avez un chargé de mission qui est spécialisé sur les questions d'hébergement et de prise en charge des personnes sans domicile fixe, une autre personne qui est chargée des sujets, par exemple, de justice, c'est-à-dire des personnes en sortie de détention ou des personnes qui sont sur des mesures d'alternative à la prison, etc., etc. On a une dizaine, je dirais, de grandes thématiques techniques et politiques qui sont suivies par ces chargés de mission, dont le métier, finalement, est de produire des argumentaires, des amendements, des notes techniques, parfois aussi des outils de communication pour le réseau, communication aussi plus grand public, et finalement ces services de mission ont aussi un rôle de veille sociale, politique et juridique sur les sujets qui sont les leurs.
Et alors c'est faire vivre ces équipes de salariés experts, ça nécessite des moyens. Comment vous faites pour faire tourner ces équipes d'experts qui fabriquent les plaidoyers ?
Nous avons trois types de financement. On a des financements de l'État, c'est-à-dire des conventions qui sont signées avec les administrations qui, je dirais, sont pilotes sur nos sujets, puisque je rappelle que la lutte contre l'exclusion est une compétence de l'État et que l'État délègue cette compétence au secteur associatif. Et d'une certaine manière, l'État nous finance en tant que tête de réseau, en tant que fédération, pour organiser l'ensemble des associations qui sont sur ce champ. Donc ça, c'est un premier mode de financement. C'est un mode de financement qui pose évidemment la question de l'autonomie des associations.
On en parlera dans quelques instants, tout à fait.
Mais ça, c'est un premier mode de financement. On a un deuxième mode de financement qui sont les cotisations de nos adhérents, c'est-à-dire que des associations qui choisissent finalement d'adhérer à la fédération, qui choisissent d'être représentées par la fédération, qui vont aussi bénéficier de tout le travail de plaidoyer et d'accompagnement technique qu'on va leur proposer et qui payent une cotisation. Donc ça, c'est une autre forme de ressources. Et puis, il y a un troisième type de ressources qu'on essaie de développer et qui monte plutôt, d'ailleurs, en puissance ces dernières années, qui sont des financements privés, alors plutôt sur des projets.
Privé, ça veut dire des entreprises ou des fondations, des choses comme
ça ? Oui, ça peut être des entreprises, des fondations, donc des formes de mécénat.
Et quel est leur intérêt à eux, du coup ?
Eux, leur intérêt, il est double. C'est d'abord, de participer à des projets de solidarité, puisque ce sont des financements qui vont à des projets, par exemple, sur la culture, sur l'insertion par l'activité économique. Donc eux, ça leur permet de montrer une forme d'engagement solidaire, ouais. et donc de le valoriser dans leur responsabilité sociale. Nous, ça nous permet aussi de gagner un peu en indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.
En diversifiant les financements, finalement. Vous gagnez en indépendance en diversifiant les financements.
Oui, ça, c'est la clé, je dirais, de l'autonomie des associations, parce que, encore une fois, on ne peut pas fonctionner sur un mode plaidoyer en s'appuyant uniquement sur des financements de l'État, parce qu'à un moment donné, lorsque vous rentrez en conflit, vous êtes mis en difficulté et l'État, entre guillemets, fixe toujours des limites au lobbying, notamment lorsqu'on est amené à s'opposer à un certain nombre de mesures gouvernementales. Donc, il faut toujours pouvoir s'appuyer sur d'autres types de financements qui sont la garantie de l'autonomie des associations.
D'accord. Vous parliez tout à l'heure de faire reposer la légitimité de votre expertise, de vos plaidoyers, sur d'abord le regard, le vécu de ceux que vous représentez, des associations et bien sûr les personnes en situation de pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous raconter très concrètement comment on peut assurer ça, comment on peut construire avec des personnes en situation de précarité des argumentaires, méthodologiquement presque, j'ai envie de dire, comment la Fédération fait ça?
La Fédération s'est beaucoup investie depuis plusieurs années. Je dirais que c'est ça a démarré autour de 2010 dans la participation des personnes qui sont accompagnées par les associations, donc des personnes qui peuvent être concrètement dans les centres d'hébergement, qui peuvent être dans le logement très social, qui peuvent être dans les structures d'insertion par l'activité économique, pour donc organiser à la fois l'expertise des personnes, aider à la prise de parole des personnes, et aider aussi à la mobilisation collective des personnes. Très concrètement, cela se fait soit dans les associations, mmh. il y a des groupes de parole,
oui.
Soit dans des instances qui ont d'ailleurs été récemment, reconnues par le gouvernement, par le biais d'un décret, qui sont le CNPA, le Conseil National des Personnes Accompagnées, qui est une instance nationale, qui regroupe donc des personnes en difficulté, les CRPA, les conseils représentatifs des personnes accompagnées, ça ce sont des instances en région, et ces conseils ont pour vocation de mettre finalement à l'ordre du jour un certain nombre de sujets qui concernent l'actualité des personnes en difficulté, pour faire, émerger à la fois des prises de position, une expertise et une prise de parole des personnes. Et nous, on s'appuie là-dessus, sur ces remontées.
Ils nourrissent vos argumentaires à travers les prises de position qu'ils arrivent à consolider dans ces instances, d'une certaine manière. Ça vous nourrit, quoi.
Absolument. Nous on s'assure que toutes les prises de position importantes de la fédération soient, à un moment donné, examinées par les personnes elles-mêmes. Donc ça se fait par le biais des instances que je vous ai citées. Ça se fait aussi par le biais de notre conseil d'administration, puisque nous avons un collège de personnes accompagnées où siègent donc 3 personnes au conseil d'administration, qui ont évidemment un droit d'expression et un droit de vote comme n'importe quel administrateur du conseil, et qui là aussi donnent leur avis sur tous les sujets, toutes D'accord. les prises de position de la fédération.
Et maintenant, sur la question, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, de pas être tout seul, Fédération des acteurs de la solidarité, la question donc des alliances. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'un mot là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes fréquemment amené à consolider des alliances avec d'autres fédérations, d'autres associations, voire, je sais pas moi, avec des syndicats, voire même avec des partis politiques? Ça vous arrive de créer comme ça des grandes alliances sur des sujets?
Oui, absolument. Si vous voulez, sur les sujets difficiles que nous avons à traiter, on a évoqué la question du pouvoir d'achat des personnes précaires, mais aussi, on aurait pu aussi parler de la question de l'accueil des migrants, qui sont quand même des sujets difficiles sur lesquels Je dirais qu'il y a des batailles culturelles et politiques à mener au-delà de, d'obtenir des arbitrages budgétaires et techniques. Bah, il faut faire masse. Et nous, on essaye d'être effectivement dans des alliances, j'allais dire, de la société civile qui partage un certain nombre de valeurs et de revendications communes sur ces sujets. Donc, assez régulièrement, on nous sommes amenés, par exemple, à créer des alliances avec les associations qui sont dans le champ du climat et de la protection de l'environnement. Mmh.
Avec les syndicats, ça le fait aussi.
Mais aussi dans le champ syndical, pour faire avancer les sujets. Et encore une fois, enfin, on voit bien que sur les sujets les plus difficiles, c'est souvent quand on arrive à faire front commun, quand on arrive à montrer qu'il y a une société civile unie, rassemblée, qu'on arrive à avancer. Ça vaut vis-à-vis du politique, mais ça vaut aussi vis-à-vis de l'opinion publique.
Oui, qui voit qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de vous. Quoi.
C'est pas évident. Vous pointez la question des alliances avec les organisations syndicales. C'est pas toujours évident parce que sur la question de la représentation et, j'allais dire, du lobbying en faveur des plus précaires, il y a quand même une question qui est posée aux organisations syndicales sur leurs difficultés finalement à représenter les personnes qui ne sont pas salariées, sans emploi. Mmh. Ouais, voilà, qui ne sont pas salariés, donc soit qui peuvent être sans emploi, qui peuvent être auto-entrepreneurs, qui peuvent être des travailleurs très précaires, des travailleurs pauvres, qui ne sont pas, j'allais dire, les clientèles syndicales habituelles. Et donc, nous, on travaille avec les syndicats, hein, mais souvent, nous sommes obligés, je dirais, d'imposer les thématiques et les problématiques prioritaires de ce public qui ne sont pas, je dirais, naturellement les publics les plus prioritaires des organisations syndicales. C'est un sujet important parce que on a un vrai problème en France de représentation des précaires. Nous, on essaye de faire le job avec les moyens du bord. Et nous sommes face à, si on prend les personnes en situation de pauvreté, près de 9 millions de personnes qui sont finalement assez peu représentées dans l'espace public et politique, assez peu représentées dans l'espace médiatique, qui sont aussi peu mobilisées dans les organisations syndicales, donc peu représentées par les syndicats, des gens aussi qui manifestent assez peu, qui votent peu, donc ils ne sont pas non plus des clientèles très intéressantes pour les partis politiques. Et donc, c'est là aussi que je crois que les associations de lutte contre l'exclusion ont un vrai rôle, je dirais, pour porter la parole des personnes et défendre leurs intérêts. Parce que finalement, si on ne le fait pas, bah, il n'y a personne d'autre qui le fait.
Merci Florent. C'est l'heure d'une nouvelle respiration musicale. On se retrouve dans un instant après Noir Désir, Un homme pressé.
Immobilier. c'est pour moi, il n'y a plus de secret. Je suis le roi, les rois explosent, le dit ma pulvérise l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision, pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous le savons à vide, de notre pourriture, mieux que de la confiture à des cochons.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique politique et l'émission du jour est consacrée au monde du lobbying politique, monde que nous explorons avec Florent Guéguin, le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité. On l'a abordé très, très rapidement tout à l'heure, mais je voudrais vraiment qu'on se concentre maintenant sur la question des confrontations de points de vue. Quand on fait du plaidoyer, du lobbying, on croise souvent sur sa route des acteurs qui ne sont pas d'accord, voire qui défendent des argumentaires inverses. Alors voyons d'abord avec les pouvoirs publics. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais concrètement, quand la tension monte entre le gouvernement et vous, par exemple sur la question des migrants que vous évoquiez, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une rupture de dialogue, tout d'un coup on ne se voit plus, ou vous arrivez quand même à vous voir en coulisses, ou il y a des menaces, quelle forme ça prend cette tension qui monte?
Il y a toujours, en tout cas de notre côté, une volonté d'engager un dialogue, j'allais dire, même avec le ministère de l'Intérieur, hein, parce que c'est sans doute le ministère avec lequel est pour nous le plus difficile de travailler, notamment sur la question de l'accueil des migrants. Mais je dirais que les discussions démarrent toujours par une demande de rencontre avec le ministre ou avec son cabinet, ou avec la direction de l'asile et des étrangers en France, puisque c'est cette administration-là qui gère ces politiques. Mais on a vu que, si on prend l'exemple, par exemple, d'un texte hein, qui a été publié par le ministère de l'Intérieur en décembre 2017 et qui visait à recenser les étrangers dans les centres d'accueil pour les personnes sans domicile fixe, les recenser en vue de contrôler leur situation et éventuellement de les éloigner du territoire national, que ça, c'est typiquement le sujet sur lequel il y a eu un clash tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre avec, à l'époque, Gérard Collomb, qui était le ministre de l'Intérieur, et que nous avons rompu en fait les discussions très très vite. Hein. Les associations ont quitté la salle.
Ah, vous êtes parti de la réunion en fait.
On a quitté la réunion alors même que le ministre de l'Intérieur était en train de terminer son discours. Ensuite, on a organisé un lobbying. Presse pour montrer la dangerosité du texte, mais cet épisode est assez symptomatique des limites du plaidoyer, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
il y a clash.
Lorsque les propositions sont inacceptables, et en l'occurrence qu'elles portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes, il y a clash, et du coup on rentre effectivement sur un mode de confrontation qui prend plusieurs formes. Ça peut être une confrontation médiatique, c'est-à-dire que on dénonce et on alerte l'opinion publique sur les dangers de tel ou tel texte pour les personnes.
Et eux, ils font pareil de leur côté, j'imagine, en communiquant auprès du grand public alors, sur leur position.
Voilà. Après, j'allais dire qu'on est dans le registre de la bataille culturelle. Et on sait que sur la question de l'accueil des migrants, c'est une bataille qui est difficile à mener dans le contexte politique actuel.
Et pendant en plein clash comme ça médiatique, est-ce qu'il y a quand même encore des contacts en coulisses ou c'est vraiment silence radio entre vous ?
Ah, écoutez, oui, il y a eu sur cet épisode des tentatives, si vous voulez, de faire revenir tout le monde autour de la table.
Ouais.
C'est notamment le Premier ministre Édouard Philippe qui s'en était chargé. Donc on a eu suite à ce clash quelques réunions autour du Premier ministre avec l'ensemble des associations à la fois du champ de la lutte contre l'exclusion mais aussi des associations qui étaient plus sur la défense des droits des étrangers. Mais ces tours de table n'ont pas abouti à un consensus et donc sur ce cas de figure, il y a eu à la fois une confrontation médiatique et une campagne que nous avons lancée avec beaucoup d'autres associations, encore une fois pour montrer les dangers du texte, mais aussi une confrontation juridique, puisque lorsqu'il y a rupture, nous regardons ensuite quelles sont les possibilités de recours devant notamment le juge administratif. Et dans ce cas d'espèce, nous avons donc saisi en référé le Conseil d'État pour tenter de faire annuler cette circulaire qui était problématique.
D'accord. Et donc c'est allé jusqu'au droit. Et eux, dans leur position par rapport à vous dans la période du clash, est-ce qu'ils sont menaçants ? Est-ce qu'ils, par exemple, vous parliez tout à l'heure du fait qu'une partie des financements de votre fédération, mais j'imagine que c'est pareil pour tous les autres, viennent du public. Est-ce qu'ils menacent, ils brandissent la menace de couper les vivres ? C'est des choses qui arrivent, ça ?
Oui. Alors sur ce cas de figure de l'accueil des étrangers, la situation ne s'est pas présentée, mais elle s'est présentée sur d'autres cas d'actualité. Par exemple, l'hiver dernier, le ministre du Logement a lui-même lancé une polémique en indiquant qu'il y avait 50 sans domicile fixe en Île-de-France. Et avec derrière des parlementaires qui ont dit non seulement le nombre de personnes sans domicile fixe diminue depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais en plus ceux qui sont dehors c'est parce qu'ils le veulent bien, c'est leur choix. Bon, nous on sait évidemment en tant que première fédération sur l'hébergement et l'accompagnement des personnes sans domicile fixe, on pouvait pas laisser passer ça. Donc, on a fait un lobbying médiatique très fort. On est rentré dans une polémique très dure qui visait à démontrer que l'État minimisait volontairement le nombre de personnes à la rue en France. Et ça nous a amené à des échanges très durs avec le ministère du Logement, avec, je dirais, entre les lignes, des menaces de baisse de financement. Donc, il est clair que nous sommes toujours sur une ligne de crête dès lors que nous bénéficions pour partie de financement public. Il y a toujours des lignes jaunes à ne pas dépasser et donc, du coup, une posture à trouver qui est à la fois, évidemment, de défendre les personnes et de défendre les associations qui les accompagnent, sans rompre, je dirais, la discussion avec les pouvoirs publics. Il y a un équilibre à trouver.
Et alors, avec les influenceurs adverses, comment ça se passe ? Par exemple, j'imagine pour vous, avec les lobbies de propriétaires qui sont contre toute forme d'encadrement des loyers, ou des grands libéraux qui veulent couper sec dans les dépenses sociales, est-ce qu'il y a aussi des moments de confrontation avec eux ? Et est-ce qu'il y a aussi des moments de concertation avec eux ?
Il y a rarement, je dirais, parce que le monde des lobbies, notamment les lobbies qui représentent les propriétaires privés et qui ont pu, par exemple, au moment de la loi Allure sur le logement, s'opposer à l'encadrement des loyers et en faisant un lobbying très fort, il est clair que souvent ce sont des mondes qui finalement qui se côtoient assez peu. On se côtoie dans la confrontation. Alors ça peut être autour de la table avec le gouvernement, ça peut être aussi dans les médias, mais très clairement il y a parfois des intérêts qui sont défendus, qui peuvent paraître en tout cas assez inconciliables. Et il est clair que quand des représentants, par exemple, de propriétaires fonciers ou d'agences immobilières défendent finalement la non-régulation du marché locatif parce que ça leur fait des rentrées financières, bon, nous, on peut pas... Enfin, c'est très difficile d'avoir finalement des discussions sereines.
Vous vous parlez pas, en fait.
Qui permettent de produire des consensus. On se parle assez peu et nous, dans cette figure, on essaye de démontrer que l'augmentation des loyers dans les grandes villes, elle est catastrophique pour les gens et que ça pousse les personnes à vivre toujours plus loin des villes. Ça pousse les classes moyennes et les classes populaires à quitter les centres-villes avec tout ce que ça génère en termes de à la fois de relégation mais aussi de problématiques de transport, de problématiques écologiques. Mais très clairement, il y a parfois des mondes qui ne se parlent pas et qui vendent, je dirais, leur propre lobbying. Et c'est, je dirais, au pouvoir public de faire le tri et de trancher en fonction de l'intérêt général.
C'est pas comme, j'allais dire, entre le patronat et les syndicats où on les voit très fréquemment soit s'écharper autour des négociations, je sais pas moi, sur Pôle emploi et autres, soit par biais de presse. Là, c'est plutôt, c'est un peu plus feutré, quoi. C'est-à-dire chacun est un peu sur sa ligne et puis c'est le gouvernement qui fait le tri. Il n'y a pas de grand moment de clash, là, pour le coup, avec ces lobbies adverses, quoi.
Non, alors, en tout cas, ce sont des moments qui sont assez rares, puisque bon, notamment pour des groupes privés qui peuvent défendre des intérêts contraires aux personnes précaires, je dirais qu'ils le font rarement de manière
découverte,
c'est pas très vendeur pour un groupe immobilier de lancer un lobbying
contre
les personnes mal logées, hein. Donc comme vous le dites, ils le font de manière feutrée, détournée. Après, ils ont malheureusement souvent des relais dans les milieux économiques et politiques qui peuvent être plus forts que les nôtres. Ouais, donc souvent la partie est quand même assez inégale. En l'occurrence, sur la question de l'encadrement des loyers, la partie, les dés étaient pipés dès le départ.
Et alors justement, ça sera d'ailleurs ma dernière question. On dit souvent que en France, particulièrement, on manque de transparence sur la question du plaidoyer politique, que les sorcières se passent en coulisses, sans contrôle, qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous sur le fait de décrire qui fait quoi, qui reçoit qui voit qui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mieux réguler le lobbying en France? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça?
Moi, je suis favorable, si vous voulez, aux évolutions qui sont d'ailleurs en cours, hein, qui visent à améliorer la transparence et être dans des logiques de déclaration d'intérêt. D'ailleurs, moi-même, avec mon président, on a rempli une déclaration d'intérêt puisque nous sommes, comme je l'ai indiqué, très régulièrement consultés par les ministères, les administrations, les parlementaires, et qu'il est normal de faire la transparence.
C'est quoi une déclaration d'intérêt, en fait?
Les sujets que nous portons. Bah, il y a une haute autorité, hein, qui en fait récolte des déclarations d'intérêt de réseaux qui sont amenés à faire des actions de lobbying. D'accord. Auprès des pouvoirs publics et notamment auprès des assemblées, assemblées nationales et Sénat. Mais le fait est que là aussi, il faut faire très attention à ce débat sur les lobbies parce que d'abord, c'est une question qui alimente une sorte de fantasme un peu complotiste. Et surtout, ce qu'il faut, le plus important, c'est clairement, il y a des lobbies qui agissent dans le sens de l'intérêt général. Et puis, il y a des lobbies privés qui agissent dans le sens d'intérêts privés et particuliers. Et donc, il faut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac quand on parle de lobby. Il y a des lobbies qui, me semble-t-il, vont dans le sens de l'intérêt collectif et du bien commun. Et puis, il y a des lobbies privés qui sont là essentiellement pour donc des intérêts privés et financiers. Et c'est cela qu'il faut contrôler, c'est cela qu'il faut surveiller.
Et est-ce que la haute autorité dont vous parliez, dans son travail de recensement de ces lobbies et de faire des déclarations d'intérêts, est-ce qu'on est sûr qu'elle le fait faire aussi à ces lobbies-là ?
C'est trop tôt pour le dire. Cette procédure, elle est nouvelle. Hein. Je dirais qu'elle date depuis à peu près une année.
Ah oui.
Donc, nous, on vient de, enfin, on a fait récemment ces déclarations. Donc, je dirais qu'il faudra mesurer dans le temps si ça produit des effets et si finalement ça permet plus de transparence. Encore une fois, il est normal que s'agissant par exemple des parlementaires, que les parlementaires soient influencés par des organisations dès lors que ces organisations défendent, je dirais, l'intérêt général, qu'elles font remonter des besoins de terrain, des besoins exprimés par la population ou par une partie de la population. Moi, je pense qu'il faut que les parlementaires continuent à travailler avec nous et avec les lobbies qui portent ça. Là où il faut définir des règles très strictes, c'est quand, encore une fois, ces lobbies portent des intérêts privés, marchands, qui ne correspondent pas, je dirais, à l'intérêt général et qui sortent, on va dire, de la notion de bien commun ou de bien public. C'est là où il faut faire très attention.
Tout à fait. Ben, on suivra ces évolutions-là de la haute autorité dont vous parliez et puis ces déclarations en espérant que ça génère effectivement de la transparence. Merci. Merci beaucoup, Florent Guéguin. Merci pour cet entretien.
Merci à vous.
C'était un grand plaisir. Et puis pour nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Juste après, un dernier morceau de musique. Cette fois, c'est un petit Radiohead pour la route. A Wolf at the Door.
Boys in first class, don't know that.
De retour dans la fabrique politique sur Campus Grenoble, c'est l'heure de la chronique pendant ce temps à Veracruz. Aujourd'hui, c'est un édito signé directement du Courrier International dans lequel je puise régulièrement ces chroniques. Un édito qui s'appelle « Gaffe au GAFA ». Il est daté du 30 janvier 2019, donc il y a quelques jours. Et il commence comme ça. « Facebook a dépensé en 2018 13 millions de dollars dans des activités de lobbying aux États-Unis. » Il est vrai que Mark Zuckerberg, le patron du réseau social, a vécu une année difficile, au moins en termes d'image. Entre scandales sur l'utilisation des données privées, explosion des fake news, influence sur les événements politiques, on est loin du simple réseau social entre amis qui semblait être l'usage du premier Facebook dans les années 2000. Pour être juste, Facebook n'est pas un vilain petit canard isolé. En fait, il y a plein de petits vilains petits canards. Ses camarades, qu'on surnomme les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, font tous l'objet d'une défiance accrue. On les accuse de générer des revenus exorbitants en exploitant nos données personnelles et sans assumer la responsabilité de leurs actes. Leurs méthodes dénuées de tout compas moral sont conspuées. Mais comme nous ne semblons pas non plus prêt à abandonner nos iPhones, nos recherches Google ou nos commandes en ligne, que faire? Facebook a fonctionné jusqu'ici en nous faisant croire que tout était acceptable car le libre partage des informations sur son réseau social gratuit servait l'intérêt général. Reste qu'au vu des événements récents, le choix algorithmique de nos lectures apparaît plutôt comme une menace pour la démocratie. Alors pour se racheter une crédibilité, Facebook doit s'engager dans une politique active de soutien aux médias dits traditionnels, qui, même avec tous leurs défauts, font preuve d'une rigueur bien utile. Ensuite, le réseau social doit investir dans ses modérateurs. Selon une enquête récente du New York Times, ceux-ci disposeraient seulement de 10 secondes pour décider s'ils retirent ou pas un contenu. Enfin, soyons fous et imaginons que Zuckerberg propose un changement radical de son modèle pour contrer l'éternelle rengaine. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Facebook deviendrait alors un réseau payant, sans publicité, où les utilisateurs auraient la garantie d'une protection de leurs données privées. Ça, c'est l'avis d'éditorialiste. Mais revenons à sa première phrase. Le fait est que Facebook a dépensé 13 millions de dollars dans ses activités de lobbying aux États-Unis, et mon petit doigt me dit que ce n'est pas pour l'intérêt général qu'ils ont dépensé tout cet argent. C'est la fin de cette émission. Je remercie infiniment Florent Guéguin d'avoir été avec nous. Vous retrouvez le podcast sur le site de Campus Grenoble et je vous dis à très bientôt.